Radio éphémère 89.1 MHz.
C'est carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, un Commodore 64 en 2026, des machines caméléons, fouinées chez les antiquaires, et un cadre légal très flou. Notre invité est Fred Requin, alias French Shark, concepteur de FPGA. L'équipe aujourd'hui d'Ascrit chez Benoît. Et j'espère que vous avez mis vos seeds sur silencieux. Ok, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour Descritch.
Bonjour.
Bonjour Fred Requin.
Bonjour.
Bonjour le public.
Merci
d'être encore avec nous depuis la précédente émission et merci à Artilect de nous recevoir pour cette émission. Nous continuons sur le sujet des FPGA en hommage à notre ami Grégory Estrade, aussi connu sous le pseudonyme de Torlus, définitivement parti trop tôt, à qui on doit de nombreuses créations sur FPGA, dont la console NEC TurboGrafx, la Sega Mega Drive, un convertisseur Peritel pour l'Apple IIc, le Gimov 2000, et j'en passe. Ami Greg, on pense à toi où que tu sois.
Dans notre émission CPU, pourtant diffusée sur une radio, on ne s'interdit pas les sujets très techniques, très niches, pour plein de raisons. La première d'entre elles est que nous sommes justement une des rares émissions techniques qui existent sur la bande FM. Ensuite, parce que justement nous documentons des domaines qui existent rarement dans ce vieux média analogique. C'est bien des fois d'aller chercher des gens qui ont les mains dans le cambouis pour discuter arrière-boutique quand nous-mêmes y avons un petit peu tâté. Et que des fois, il y a des gens qui nous le disent, même s'ils ne sont absolument pas dans ce domaine, ou nous ont découvert totalement par hasard, ben ça leur a donné envie de s'y mettre, voire d'en faire leur métier. Le domaine des FPGA est assez précis, assez velu, et je doute très fortement qu'on trouve un millier de spécialistes francophones sur le domaine. Là, avec Benoît, nous sommes allés chercher Fred Requin, qui est vraiment une pointure sur le sujet. Et dans cette première partie de l'interview, Fred était très intimidé, et ça se comprend. À un niveau technique, il est compliqué de vulgariser. Comme on parle vraiment pointu, il faut préparer la manière de s'exprimer pour ne pas caler en répondant. Comme pour pratiquement tous nos invités, nous lui avons transmis le plan, ce que l'on comptait lui poser comme question afin de ne pas le coincer. Prévoyant, il s'était rédigé plein de notes, notamment sur l'histoire de la technologie FPGA, pour qu'on parle d'une période où il n'était pas encore dedans. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'est pas très à l'aise sur cette première partie. C'est évidemment durant une pause que j'ai maintes fois vécu un moment de frustra-joie en tant qu'intervieweur, frustration et joie en même temps, que notre interlocuteur tout d'un coup devienne nettement plus à l'aise et discute avec passion avec nous. Alors, pourquoi serait-ce un cauchemar? Parce qu'avant, ce genre de moment magnifique n'était pas enregistré. Durée de la cassette, pile, tout ça. Sauf que maintenant, nous ne sommes plus limités par le support. Durant cette pause, j'ai laissé courir l'enregistreur. Et donc, Fred Requin est revenu sur ses réponses avec Benoît. Ils ont parlé tambouille, avec ce regard de passionné. J'avais l'impression d'être une petite souris qui écoute Fred et Benoît sur le coin de la paillasse entre deux ordis et la carte proto du FPGA, sur ce qu'ils vont en tirer et comment. Et si parfois on n'a pas tout compris sur le coup, on est emporté par cette énergie créative. C'est ce que nous souhaitons transmettre dans notre émission CPU. Fred a accepté que ce moment soit diffusé à la radio.
Après, j'aurais pu dire qu'on fait déjà ça.
Non, pas besoin de ça.
Parce que là, je te vois, tu es en train de paniquer.
La reprogrammation à la volée, nous, on a testé. Et si tu oublies d'enlever les interruptions, ben, tu plantes ton OS, quoi.
Ah!
Tu sais, t'as un périph sous Linux, avec un driver.
Non, mais surtout, c'est le FPGA.
Mais c'est sur du zinc, en fait. Donc, tu sais, t'as ton ARM à côté, t'as toute ta matrice avec des périphes, des interruptions, etc. T'as chargé un driver. Tu dis, oh, tiens, je vais reprogrammer la puce. Et là, pff, Tu gèles le système.
C'est une très bonne idée, ça. On va se garder un petit truc. C'est pas grave que c'était pas du tout scripté. Je sais pas si t'as
non,
à le rentrer.
Non, mais je le réinsère.
Mais on gardera un truc sur ça parce qu'on va discuter d'un point super intéressant qui est pourquoi il y a une petite carte de RAM en plus de la carte FPGA dans le Mister.
Je te laisse insérer comme tu veux.
Parce que là, tu dis, tu fais par, pour l'instant, on s'en fiche. On fera après la pause, on va dire. Mais là, tu fais référence, je suppose, au fait que le bout de FPGA dans un truc comme le Zinc, il est quand même sur le bus, l'un des
oui,
bus.
Oui, il est sur, il est sur du bus AXI.
Et donc,
bus AXI avec des interruptions, etc.
Il peut planter les transactions.
Donc, si tu n'arrêtes pas ton driver avant de reprogrammer le truc,
ouais, ça, peut
ça part en vrille. Hein.
et j'ai cru comprendre que effectivement, l'interfaçage entre la partie CPU et la partie FPGA, on fera. Je lancerai des questions sur ça et tu répondras. Ça, c'est intéressant. Que c'était pas si simple, qu'il y avait des questions de goulet d'étranglement et de performance, qui font que la RAM, la SDRAM, qui est associée au cœur ARM.
Ah, mais toi, tu parles des Altera.
Alors, je parle
des Altera, ils ont leur bus AXI est moins bien foutu que sur Xilinx.
Ah, d'accord.
Pourtant, j'aime bien les Altera.
Parce que dans cela, il disait,
ils ont un multiplexeur assez limité au niveau du bus. J'ai regardé là, récemment quand j'ai eu un Mister, en fait.
Entre l'arme.
Moi, je suis habitué au Zinc 7000, qui est quand même assez costaud. Il y a plein de bus AXI en parallèle.
Ah, je te lancerai sur ça. Alors, je lancerai sur le fait que dans le Mister, quand on fera la partie rétro. Savez-vous quel est le plus merveilleux, le plus avant-gardiste de tous les micro-ordinateurs? Le Commodore Amiga, bien sûr.
Copain.
Savez-vous quel est, à ma connaissance, le plus ancien usage de FPGA en rétro-computing? Le Minimig, un émulateur d'Amiga 500. Décidément, les grands esprits se rencontrent. Je ne parle pas de l'équipe de CPU, mais bien de l'ingénieur hollandais Dennis van Veeren, qui a créé le Minimig. En gros, pour clore un débat sur des forums d'amigaïstes qui se demandaient s'il était possible de recréer sur FPGA les custom chips de l'Amiga. Pourquoi custom? Parce que la magie de l'Amiga réside dans trois ASIC développés par les électroniciens de Commodore, enfin, de la start-up HiToro, où la console de jeu qui deviendra le micro-ordinateur Amiga 1000 a été conçue par une bande de transfuges d'Atari, dont Jay Miner, génial développeur du circuit vidéo de l'Atari 800. Ces trois puces, Paula, Denise et Agnus s'occupent du son, de la vidéo, de la chip RAM, de l'accélération graphique, du contrôleur de disquette, et j'en passe. Manifestement, la question est réglée depuis 20 ans, puisque c'est entre 2005 et 2008 que Denise a implémenté le Minimig autour d'un Xilinx Spartan 3 de 8000 luttes, ce qui n'est pas particulièrement spacieux. Ainsi, Denise a gardé un vrai Motorola 68000, fabriqué jusqu'en 2021, ce qui est remarquable pour un processeur commercialisé en 1979. Et comme ça ne suffisait pas, Paula, Denise et Agnus rentrant au chausse-pied dans le Spartan 3, Denise a déporté dans un microcontrôleur PIC 18F l'émulation du lecteur de disquettes et des ports clavier, souris et joystick. Une architecture hybride, matériel plus logiciel, donc. Est-ce que c'est parfait? Non. Votre clavier USB a sûrement une meilleure qualité de frappe, mais l'agencement des touches n'est jamais le bon, et vous ne pourrez pas brancher la plupart de vos vieux périphériques. Mais le projet ne s'est pas arrêté en 2008. Rappelez-vous, c'est libre et open source. D'autres développeurs ont repris le flambeau. Une première évolution a été le remplacement du PIC par un ARM disposant de l'USB, en remplacement du port PS2 pour lequel les claviers deviennent difficiles à trouver. La vitesse et la taille mémoire du microcontrôleur ARM ont permis d'ajouter le MIDI, l'émulation d'un disque dur IDE tel que présent dans le custom chip Gale des Amiga 600 et 1200, et des améliorations du circuit imprimé et du code du FPGA rendaient possible l'overclocking jusqu'à 50 MHz, ce que supportent allègrement les versions tardives du 68000 en processus HCMOS. Mieux, Minimig.ca fabrique une version suffisamment spacieuse de la carte mère pour accueillir des cartes accélératrices telles que la Terrible Fire TF536 de Stephen Leary et son redoutable 68030 à 50 MHz épaulé par de la SDRAM moderne, donc avec moins de cycles d'attente que les cartes accélératrices des années 90. Ça dépote un max! Le boîtier en aluminium est du plus bel effet, j'ai très envie de m'en commander un. Vous rappelez-vous du micro-ordinateur à la puissance sans le prix? J'ai nommé l'Atari ST. Lui aussi compte parmi les premiers projets rétro-computing sur FPGA. Le MIST, sorti en 2013 sur Altera Cyclone 3 de 25 000 luttes, ce qui suffit pour rentrer un Atari STF ou STE, 68 000 inclus et même un 68 020. Quoique déjà ancien, le projet est toujours actif, le catalogue de corps, c'est-à-dire de machines émulées, ne cessant de s'étendre et la compatibilité de s'améliorer. Notez le nom, MIST. À l'origine, le projet était bien un émulateur Amiga plus ST. Toutefois, le ST ayant un chipset nettement plus modeste, c'est ce corps qui a été écrit par Till Harbom en même temps qu'il concevait la carte MIST, le portage du Mini-MIG ayant pris un certain temps.
Ouais, alors, mettez dans la même pièce un dev Atari et un dev Amiga, et c'est la guerre des 16 bits. Alors, émuler les deux dans la même machine, c'est... Ouais, c'est la paix des braves, quoi.
Ouais, c'est comme mettre deux chats en rut dans la même pièce, ou un communiste et un trotskiste. Les débats seront violents, la pièce ravagée, et il faut pas mettre la main entre les deux. Profitons-en pour aborder une polémique parmi les passionnés de l'émulation. Ce n'est pas parce qu'un émulateur sur FPGA est électronique plutôt que logiciel qu'il est forcément exact au cycle d'horloge près. Le Mini-MIG en est un exemple. Il devait composer avec la taille limitée de son FPGA des années 2000, d'où le recours à un microcontrôleur pour déporter une partie de l'émulation. Toutefois, la compatibilité du Mini-MIG reste excellente, mais c'est en bonne partie car l'Amiga se prête à l'exercice. Dès le premier modèle, l'Amiga 1000 sorti en 1985, un connecteur était prévu pour une carte accélératrice. Il était donc bien compris que les programmes devaient être portables et n'utiliser que les interfaces documentées. Pas question d'écrire du code dépendant des cycles d'horloge du circuit vidéo. Alors que c'est justement la seule façon d'obtenir un overscan sur Atari ST. L'overscan, c'est l'affichage dans les bordures de l'écran, fonction pas du tout prévue dans le circuit vidéo shifter d'Atari. Contrairement à Denise dans l'Amiga 500. Mais pas de panique, il existe d'excellents corps d'émulation exacte du 68000, et les logiciels comme Atari émulent exactement le ST, en tout cas en temps simulé à l'intérieur du logiciel qu'est l'émulateur lui-même. Combinez ce savoir-faire avec un FPGA et vous obtenez un MIST Cycle Accurate et en temps réel. La preuve, les démos les plus pointues passent parfaitement, tels que le légendaire scrolling horizontal de Let's Do the Twist Again, démo du groupe français ST Connection. Il faut bien comprendre que le scrolling horizontal n'est lui non plus absolument pas supporté par le circuit vidéo de l'Atari ST, une machine développée en 6 mois et coûtant la moitié du prix de l'Amiga. Des sorciers ces démocodeurs. Vous êtes libre ce soir ? Je vous propose la méga-démo Punisher Machine de Delta Force. Une méga-démo, c'est une démo collaborative regroupant les contributions des meilleurs démo-groupes du moment. Vous y trouverez l'écran Let's Do the Twist Again. Faudra juste dîner tôt. Ça dure 4 heures. Mais on reparlera de démos et de la guéguerre entre ces deux machines dans d'autres épisodes.
D'ailleurs, faudra parler du film Démo, un film double face, double densité par Alex Pilote sur le sujet et qui parle justement des démo makers de ces deux machines mythiques. Mais bon, je t'interromps et pas que dans les cycles machines.
Notre historique des projets rétrocomputing les plus anciens, mis en abîme vertigineuse s'il en est, serait incomplet sans rappeler que notre invité Fred Requin a lui-même commercialisé avant 2010 un émulateur d'Amiga 500. Mais pas que, puisque son MCC216, le Multiple Classic Computer, pouvait aussi émuler le Commodore 64 et plusieurs consoles. Malheureusement, les stocks de MCC sont épuisés depuis longtemps. Par contre, vous pouvez toujours acheter un Mini-MIG aujourd'hui, ou un MIST fabriqué par l'excellent Lotarek, mais l'émulateur le plus puissant est probablement le Mister. Un descendant du MIST lancé en 2017 sur Altera Cyclone 5, un monstre de 110 000 luttes. La boîte secrète du Mister, c'est la carte DE10 Nano de Terasic. Les cartes d'évaluation sont systématiquement vendues bien moins cher que le prix du FPGA qu'elles contiennent. C'est comme le substance illicite, la première dose est gratuite. Sauf que Terasic a fini par comprendre pourquoi cette carte et seulement cette carte était perpétuellement en rupture de stock. Ils ont légèrement augmenté les tarifs.
Ouais, combien ?
Je pense 225-250 TTC en plus.
Bon, ça va.
Moi, j'avais payé moins de 150. Ça reste néanmoins une excellente option, de loin la plus polyvalente en termes de machine émulée, la plus puissante en termes de taille et vitesse du FPGA et quantité de RAM disponible dans la machine émulée, la plus flexible grâce à son arme sous Linux, et ne parlons pas de la scène prolifique. Il suffit de consulter le forum et le GitHub. Vous en doutiez ? Le corps Mini-MIG a été porté sur Mister, et grâce au FPGA nettement plus généreux, il émule le chipset AGA des Amiga 1200, 4000 et CD32, l'ultime génération avant la faillite de Commodore, là où le Mini-MIG, sur Spartan 3, devait se contenter de l'OCS de l'Amiga 500 et l'ECS de l'Amiga 500+. Chose surprenante, il s'avère que même le Cyclone 3 du MIST suffit à émuler le chipset AGA. Toutefois, vous n'aurez pas accès à un catalogue de machines émulées aussi large que sur le Mister, et seul ce dernier dispose d'une sortie HDMI, le MIST se contentant de VGA. Mais lui peut sortir en 15 kHz pour connexion à un tube cathodique par Peritel. Parlant de corps portés sur Mister, l'émulateur Jaguar développé à partir de 2012 par notre regretté Grégory Estrade sur Altera Stratix 2 est en cours de portage sur Mister. Et il est fascinant de noter que tous les projets de Greg ont été portés sur Mister. Non seulement son émulateur Jaguar, mais aussi son émulateur Sega Mega Drive et son émulateur NEC PC Engine. J'aurais encore pu vous parler côté Atari du Firebee et du Susca, côté Amiga du Vampire et son extension vectorielle du jeu d'instruction du 68000 façon Intel MMX, mais on n'a plus le temps! Par contre, allez sur la page web de l'émission cpu.pm/234, on vous mettra plein de liens qui vous donneront les clés de l'univers formidable de l'émulation hardware par FPGA. En conclusion, si vous n'avez qu'un PC, lancez Atari ou UAE, c'est gratuit et extrêmement compatible, à défaut d'être ultra basse latence. Mais si vous avez le budget et beaucoup de temps libre, occupez vos longues soirées d'hiver en montant un mystère carte par carte, ou pour un budget plus raisonnable, procurez-vous un Myst prêt à l'emploi ou un Minimic d'occasion. C'est une expérience à vivre en personne. Ça va, Daskritch ? T'as la carte bancaire qui te démange ?
Merci.
J'ai déjà un mystère, mais pas le Minimic de 2008, et je vous jure que c'est vrai, j'étais à ça de cliquer sur acheter quand j'ai vu le nouveau boîtier en aluminium sur minimic.ca. C'est bientôt mon anniversaire !
Die Kapazität ist überschritten. Zu viele Daten kommen zu schnell herein.
Night. Too many directors come from too fast inside. Première place, Streaming Music Compo à la révision partie 2020.
écoutez Radio FMR.
Pour parler des FPGA, nous avons la chance d'avoir sur Toulouse un spécialiste du sujet, ingénieur électronicien le jour et passionné de rétrocomputing la nuit. Nous recevons Fred Requin, alias French Shark, concepteur de FPGA pour le traitement d'images, co-créateur de l'émulateur Retro Gaming MCC216, expert du microprocesseur Motorola 68000 jusque dans ses bugs, et espèce protégée, même près des plages.
Ceci est la troisième partie et fin de l'interview. Les précédentes ont été diffusées dans la dernière et avant-dernière émission. L'intégrale de l'interview est disponible sur le site web de l'émission cpu.pm/234.
CPU, carré, petit, utile.
Pourquoi les FPGA ont tant la cote dans le rétro gaming?
En mon avis, c'est parce qu'il y a une communauté de hardcore gamers qui veulent du zéro latence au niveau affichage, qui veulent pas un décalage entre le son et l'image. Et donc, ils étaient un peu déçus avec l'émulation. Et l'arrivée du FPGA a permis d'avoir exactement le même comportement que le vrai matériel.
Donc c'est une demande qui venait des utilisateurs plus que l'envie de développeurs qui font ça pour le fun de bricoler sur cette techno.
Ah ça je sais pas. C'est vrai que je veux dire moi et Greg et d'autres, on a fait ça parce que c'était fun. Et puis parce qu'il y avait un petit challenge à relever et bien sûr à comprendre comment fonctionnait la machine de l'époque. C'est une question d'œuf et de poule, quoi. Mais
ou la rencontre d'une offre et d'une demande.
Oui.
Et tu as dit un mot important, exact. Le comportement exact. Est-ce qu'un FPGA est une copie conforme des chips de l'époque?
Du point de vue de la logique, on peut dire que oui. Par contre, si on s'amuse à regarder, à prendre le FPGA et à le mettre sur le circuit d'origine, là, on aura des différences. Il va beaucoup moins consommer, puisque c'est du CMOS, et alors à l'époque, c'était du NMOS. Les niveaux logiques, on est sur du 3.3 au lieu de 5 volts. Les temps de montée et de descente des signaux aussi, qui sont beaucoup plus rapides par rapport aux signaux de l'époque, et qui peuvent mettre le boxon, d'ailleurs, sur la carte, si on les ralentit pas.
Ah ouais.
Donc voilà.
Faut mettre le frein à main si jamais on met la
donc
puce.
On met des résistances série quoi, donc pour un peu ralentir, un peu coucher les fronts comme on dit quoi.
Pour éviter les harmoniques à trop haute fréquence.
Ouais, surtout que les cartes souvent étaient pas faites dans les règles de l'art, avec pas trop de plans de masse, du double couche seulement. Et tout ça fait que il y a du bruit un peu partout, il y a du rebond. Donc avec des circuits rapides, ça marche pas très bien.
Et les signaux qui rebondissent, c'est pas une bonne idée. Les puces originales étaient très bien documentées. Tu dis les FPGA sont une copie du fonctionnement de l'électronique d'époque, mais quand on écrit un émulateur logiciel, on a recréé les algorithmes de l'ordinateur original à partir de ce qu'on avait comme documentation. Dans le cas des émulations sur FPGA, quelqu'un a recréé les algorithmes de l'ordinateur original ou c'est littéralement un clone du design des puces originales?
Disons qu'il y a plusieurs méthodes. On peut céder du datasheet et à partir de ça, recréer la fonctionnalité. On peut espionner la puce et à partir de ça, recréer la fonctionnalité. En fait, on va faire fonctionner son FPGA en parallèle avec la puce originale. Et chaque fois qu'il y aura un signal qui sera différent, on le fait rentrer dans un analyseur logique qu'on a mis dans le FPGA. Et cela nous permet de instantanément d'avoir l'instant où la différence est apparue et permettre d'améliorer à mesure par itération le circuit que l'on recrée.
Donc quand tu as ce niveau de détail, même si tu n'as pas reproduit le design original du circuit, le circuit que tu as fait sur FPGA devient indistinguable du circuit original. Donc c'est quand même une émulation exacte du coup.
Vu de l'extérieur, oui. Et après, il y a la troisième méthode, encore plus folle, c'est de regarder le die shot de la puce.
Explique ce que c'est qu'un die shot.
Die shot, c'est en fait, on décapsule la puce on photographie le die. En fait, on prend des dizaines de photos. Du silicium au microscope.
On passe à l'acide pour décaper au fur et à mesure pour...
Pas automatiquement. Sur certaines puces où le nombre de couches est limité, en fait, on voit à travers. Donc par transparence, on voit à peu près toutes les couches. Et donc on regarde ça, on analyse et on retrouve les fonctions logiques. Et à partir de ça, on refait le Verilog et puis après le comportement.
Alors là, c'est vraiment de la rétroconception directement à partir d'un exemplaire de la puce transistor par transistor. Il y a des cas où on arrive à retrouver les documents de conception, les schémas, le code original des composants d'époque.
Oui, ben c'est ce qu'on a fait avec Greg sur le sur la Jaguar. On a eu accès à la netlist des puces de la Jaguar et à partir de ça, on a refait le Verilog. Il y a eu aussi un autre cas, alors c'était le fameux 68000. Il s'est trouvé que Motorola a publié dans les brevets du 68000 quasi le design complet avec tout le microcode. C'est comme ça en fait que aujourd'hui on a un 68000 cycle exact qui s'appelle FX68K où ben en fait c'est un boulot de plusieurs personnes dont je pense cette personne-là elle doit être française, il s'appelle Olivier Galibert. Donc lui, à partir du die shot, il a fait tous les transistors, les fameux 68000 transistors du 68000. Et ensuite, le travail a été repris par une autre personne, je ne me rappelle plus son nom, et il a fait le Verilog du 68000.
Et le FX68K, c'est celui qui est utilisé maintenant par certains rétro-émulateurs hardware comme le Myst et le Mister, si j'ai bien compris?
Je pense que oui.
Je crois que c'est celui qu'ils utilisent pour l'émulation Atari, Amiga, je suppose aussi la Mega Drive.
Oui, bon, le 68000, c'est quand même assez marrant parce que quand on regarde la puce, il y a, on va dire, la moitié du silicium, c'est du microcode, c'est des ROM. Donc, en plus, comme ce microcode était publié par Motorola dans le brevet, il a été assez facile de retrouver ces petits et de... D'ailleurs, je m'étais amusé à faire l'exercice dans un gros fichier Excel, etc.
Et du coup, ça permet de reproduire exactement tous les bugs du 68000.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, après, on ne peut pas vraiment parler de bugs sur le 68000. On peut parler plutôt de...
Si, je crois qu'il y en avait deux qui faisaient bien chez...
Ouais, c'est des comportements un peu bizarres. D'ailleurs, il y en a un qui est dû au microcode, genre l'instruction TST, de test. Qui fait plus que juste une lecture et un test. Il y a les accès aussi sur au niveau du stack. Donc, avec le registre A7, pour ceux qui connaissent.
Donc, le pointeur de pile.
Voilà. Mmh. Donc, on fait des accès, octets sur le stack. Et avec du post-incrément ou du pré-décrément, ça fait pas des moins 1 ou des plus 1, ça fait des moins 2 ou des plus 2.
J'étais même pas au courant, faut que je révise. J'avais en tête que l'instruction clear aussi, qui aurait juste besoin d'écrire, elle lit avant d'écrire,
oui.
Donc elle perd du temps.
Non, oui.
C'est mineur.
Ouais.
C'est des bugs. Mais qui
ça, c'est pas, à la limite, c'est pas un bug, ouais.
Et du coup, si je veux me remettre à la conception FPGA pour du rétro-computing, quelles connaissances faut-il? La pure logique de programmeur suffit-elle ou faut-il aussi être super calé en électronique?
Super calé, je sais pas, mais au moins avoir les bases, algèbre de boules, le tableau de Carnot, logique combinatoire, séquentielle, machine à état. Donc des trucs pas marrants qu'on apprend à l'école, mais finalement qui servent.
Et on trouve des tutoriels?
Il y a pas mal de sites intéressants. Mon préféré, avec lequel j'ai commencé d'ailleurs, c'est FPGA for Fun, qui est vraiment pas mal. Après, il y a le regretté Hamsterworks. Je dis pas que la personne est morte, c'est juste que le site a disparu. Mmh. Et lui avait énormément de projets. On trouve toujours une archive sur archive.org. Donc, de mon côté, j'avais fait une copie juste à temps avant que le site disparaisse. Mais bon.
Tu me la passeras parce que celle-là, je l'ai pas.
D'accord.
Vous êtes arrêté de vous échanger les cartes Pokémon. On voit la question suivante.
Si je veux me faciliter la vie en tant que softeux qui fait du logiciel, y a-t-il des compilateurs directement du C vers le FPGA?
Comment dire? C'est une question de softeux, en fait. On va dire ça comme ça. Hein. Parce que s'amuser à utiliser du C pour faire du FPGA, bon...
Tu considères que la programmation, c'est fondamentalement un esprit différent par rapport à écrire du logiciel pour un microprocesseur qui, il est vrai, est intrinsèquement séquentiel?
C'est pas exactement cette question. C'est que si on se limite au niveau du C, ça peut marcher. C'est-à-dire, si on se limite à du calcul, on peut décrire le fonctionnement d'un pipeline. Si on commence à abuser de malloc et d'accès mémoire, là, c'est plus la même histoire. Il y a d'ailleurs deux projets, donc... Ce fameux C to FPGA, c'est ce qu'on appelle le HLS, souvent.
La High Level Synthesis.
Voilà. Et il y a deux projets intéressants open source. Il y en a un qui s'appelle CFlex HDL, qui est un dérivé de C et qui fait du HDL. Et l'autre s'appelle Pipeline C. pareil, dérivé de C, qui fait du HDL.
Et ce sont des bibliothèques, des dialectes, comment c'est fichu?
C'est un outil, en fait. Alors, il me semble que c'est beaucoup fait avec du Python. Et derrière, ça génère du code. Ça doit être du Verilog, parce que derrière, on peut attaquer de la simu Virilator avec. Donc, ça doit être du Verilog, ouais.
Et si je peux rester, du coup, dans ce monde que je connais de logiciels, tout en profitant de la performance des FPGA que tu disais, capable de faire du Cycle Accurate, du coup, est-ce que c'est pas plus facile, finalement, de créer un émulateur particulièrement rétro-computing avec un FPGA que purement par logiciel?
C'est différent. Il y a un côté parallèle qui fait que c'est différent. On a plusieurs composants à recréer. En plus, à l'intérieur, il y a plusieurs blocs qui vont travailler en parallèle. Donc, il faut vraiment voir ça, s'occuper d'une fonctionnalité et puis d'une autre. Donc, c'est pas comme du logiciel, comme un émulateur où, en fait, on va s'amuser à décrire le comportement de chaque composant de façon séquentielle l'un derrière l'autre.
Oui, dans le FPGA, ce sera beaucoup plus facile de recréer les différentes fonctions d'entrée-sortie de l'ordinateur à émuler qui, dans le vrai ordinateur, opèrent intrinsèquement indépendamment les unes des autres. Tu pourras faire ça directement dans le FPGA?
C'est ça, ça va fonctionner en parallèle. Donc ça semble plus facile, mais le fait que ce soit parallèle, on a le cerveau qui peut se mettre à bugger quand même.
Ah oui, donc il faut quand même
un cerveau particulier. Parce qu'on aime bien le séquentiel quand même.
Il faut donc quand même une certaine tournure d'esprit, une certaine sensibilité.
C'est ça.
Toi, tu l'as? Moi, je suis pas sûr.
Au fil des années, oui, j'ai réussi à l'apprendre, mais ça a été compliqué au début.
Et est-ce que je dois tout faire moi-même ou est-ce qu'il y a des bibliothèques de recréation de divers composants en open source, par exemple, sur FPGA? Par exemple, si je veux émuler un processeur RISC un peu bizarre comme celui d'une station de travail Silicon Graphics ou d'une Nintendo N64?
Ouais, mais la Silicon Graphics n'a jamais été émulée, c'est pour ça que je t'ai posé la question.
Ah ouais, mais le processeur existe en fait, le MIPS R3000 si ma mémoire est bonne. Mmh. Donc il y en a même plusieurs versions d'ailleurs qui existent en softcore, comme on dit.
Et s'il y en a plusieurs, je choisis lequel?
C'est compliqué. On a quelque chose, mais on n'est jamais sûr qu'il soit testé à 100%.
Ou qu'il soit fidèle.
Oui, exactement, c'est le même problème. Il y a même plus que quelques années, il y avait d'abord opencore.org, le fameux site qui contenait plein de designs VHDL ou Verilog, qui existe toujours d'ailleurs, mais maintenant ce site est dépassé et les gens vont plutôt sur GitHub pour mettre un projet. On trouve énormément de CPU, softcore. Je sais pas s'il n'y a pas un CPU qui aujourd'hui n'a pas été recréé, quoi, honnêtement.
Et bah justement, tu as eu à faire ces choix quand tu as toi-même conçu ton MCC. Parle-nous-en. C'était l'un des premiers produits d'émulation rétro-computing sur le marché. Et récemment, les marques de Commodore ont été rachetées par une équipe de passionnés. Ils ont commercialisé un nouveau Commodore 64.
Alors, le MCC, alors ça, c'est une histoire qui date de 2008. À cette époque-là, j'étais aux États-Unis. La crise des subprimes venait d'avoir lieu. Donc, avec quelques collègues, on avait du temps libre, on va dire, en attendant que la société ferme. Et j'avais eu l'idée de faire de recréer le jeu d'arcade de 1943 sur une carte FPGA. Et j'avais présenté ça d'abord dans le cadre de là où je travaillais, c'est-à-dire dans l'automobile, je leur avais dit, il faut s'amuser à faire du...
Donc t'as présenté un jeu d'arcade où c'est l'histoire d'un avion qui tire sur des tanks au sol pour de l'automobile?
Oui, mais en fait, c'était... À l'époque, je travaillais dans la branche...
L'idée, c'était de remplacer le joystick par le volant et le levier de vitesse?
Non, pas du tout. C'est qu'à l'époque, je travaillais dans la branche, ce qu'on appelait radio entertainment. Mm-hmm. Donc, il y avait ce qu'on appelait au niveau des places arrière, où on a un écran, on peut regarder des vidéos. Donc, je leur avais dit, on pourrait faire un système reconfigurable qui pourrait proposer du jeu vidéo. Donc, je leur avais présenté ça. Mais... Et voilà, donc j'avais un peu impressionné mes managers, on va dire, avec ça. Et l'un d'entre eux, en fait, m'a dit, tu sais quoi, on devrait monter une boîte. Donc on a fait une start-up, en 2008. Et de là est né le MCC, donc on a mis plusieurs corps, le corps Commodore 64, Amiga. Après, d'autres personnes nous ont aidés, donc on a eu un corps Atari 2600, ZX Spectrum et Apple II.
C'est très large, on va du 8 bits à du 1632, on couvre quasiment 15 ans de l'industrie, 20 ans
ouais,
presque.
Mais en fait, comme on n'avait que 16 calutes sur le FPGA, on était vraiment l'Amiga, c'était vraiment un ric-rac ce qu'on pouvait rentrer. Quoi.
C'était quel FPGA?
C'était un Cyclone 3,
Altera?
Ouais, Altera, 16 calutes, ouais. Avec une SDRAM et une mémoire flash.
Donc, et qu'est-ce qu'il y avait d'émulé? Le CPU, les procs graphiques, les procs audio?
Oui. Ouais. Et entrée joystick classique DB9. On n'allait pas mettre de l'USB, sinon on aurait bouffé tout le FPGA juste avec la stack USB.
Et cette première génération donc d'émulateurs, c'était pas ceux où on pouvait brancher les vraies cartouches? Il n'y avait pas de bus représentant les signaux d'origine?
Non, il y avait une SD card pour faire l'équivalent de la disquette. Donc sur le C64, ben j'avais aussi refait complètement le 1541 puisque il est très important là le lecteur disquette, il a son propre CPU. Donc j'avais refait le 1541, il supportait les fast loaders. Donc vraiment comme l'original quoi.
Ah oui, donc ton MCC était équivalent aujourd'hui à des cartes comme l'Ultimate 64.
Oui, oui, oui. Et sur le CID, j'ai été le premier à mettre le filtre sonore sur le CID.
On va rappeler, hein, le CID, c'est processeur audio du Commodore 64. Ouais. Ouais. Et le filtre, donc, c'est un filtre passe bas pour atténuer un petit peu les aigus.
En fait, il a trois modes. Il peut être en passe bas, passe bande ou passe haut. L'équivalent numérique s'appelle un state variable filter. Donc c'est ce que j'ai intégré dans la puce. Bon, je dis pas que ça sonne exactement comme un vrai CID, mais de toute façon aucun CID ne sonne pareil. Donc ça c'est un débat infini, on va dire.
Ouais, déjà il y a des différences de son entre les anciens 65XX des premiers Commodore 64 et les 85 qui avaient plus que du 5 volts, je crois, de la fin de la production des C64 et C128, déjà, ils sonnent différemment. Alors, les reproductions sur microcontrôleurs et FPGA, on peut leur pardonner un peu d'approximation. Mmh. En parallèle de cette start-up que tu as créée, de nos jours, dans ton travail, est-ce que tu as des clients qui te demandent d'émuler d'anciennes puces, ou c'est purement une activité loisir, le rétro-computing, pour toi?
Pour moi, c'est une activité loisir. Par contre, je sais que ça existe dans le secteur, on va dire, toulousain, bordelais, et l'entreprise Serma, qui fait de la gestion d'obsolescence, sans doute pour l'aéronautique. Et quand la puce n'existe plus et que l'on veut continuer à maintenir l'équipement et qu'on veut pas refaire le logiciel, eh ben, il faut la recréer. Donc il y a un marché.
Mais là, par contre, on est obligé d'être dans l'exactitude sur les signaux et tout ça par rapport à la carte.
Ah oui, oui, justement, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux signaux trop rapides, il faut adapter les drivers. Bon, dans leur cas, eux, derrière, ils font des ASIC. Mmh. Donc, ils maîtrisent ça au niveau de la fab.
Mais ils prototypent sur FPGA?
Oui, sans doute. Vu les vitesses et les tailles de puces, ils font ça sur FPGA, ouais.
Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, que ces puces que l'on doit émuler et tout ça, comme on a le langage, la programmation qui permet de programmer le FPGA derrière, donc en Verilog, on peut estimer qu'on gagne 20 ans de support? C'est-à-dire que, justement, on peut gagner du temps et continuer à fabriquer, entre guillemets, les émulations de ces puces.
Proroger la durée de vie d'un design sans avoir besoin de le reconcevoir de zéro avec des composants modernes?
Oui, oui, sans doute, oui, oui.
Comme cette émission de CPU est un hommage à Grégory Estrade, alias Torlus, peux-tu évoquer les projets que vous avez menés ensemble sur FPGA?
Alors, le projet principal qu'on a fait ensemble, ça a démarré il y a quand même au moins 10 ans, voire plus. Je m'en rappelle, c'était au Réglu. Donc le Réglu, c'était Retro Gaming l'Union de l'association Silicium. Il était venu me voir, il m'avait dit « Ouais, tiens, je suis en train de prendre la netlist d'Atari de la Jaguar et je suis en train de la convertir en VHDL et tout. » Il m'avait montré son outil qui marchait en Java. Moi, j'avais dit « Tu sais, ça serait peut-être mieux d'essayer en Verilog. » Parce que y a l'outil là de simulation, là, Verilator, il est sacrément performant pour faire les simus. Et j'ai dit « En plus, je suis en train de finir de développer un 68000, le J68, qui est totalement en Verilog. » Comme il y en a un dans la Jaguar, il dit ben, ça serait intéressant de mettre les deux ensemble. Donc il a basculé sur le Verilog au niveau de son outil, et puis il a commencé à intégrer son boulot et le mien. Et après, ben, après avoir une simulation qui marche, il fallait avoir une carte. Donc moi, j'utilisais une carte de dev d'Altera à base de Stratix. Donc je lui dis ben vas-y trouve la même. Il a trouvé ça sur eBay. J'ai développé une carte FI qui permettait de rajouter la sortie vidéo, l'audio, les entrées joystick. Et voilà. Et de ça, il a fait la première version du Core Jaguar 64. Et plus tard, donc en 2014, on a fait une petite présentation sur ça à l'ENSET lors du Capitole du Libre. Et c'était une présentation sur l'outil Verilator, comment on pouvait utiliser cet outil pour faire de la simu rapide, de la co-simulation, parce que dans le cas du 68000, on faisait tourner l'émulateur 68000 en parallèle, et on vérifiait chaque instruction pour voir qu'on avait le même résultat. C'était ça la présentation à l'ENSET. Il y avait en démo la carte qui tournait, qui faisait tourner un jeu, quoi.
Je me souviens de cette présentation.
Voilà. 2014.
C'était en parallèle, si je me souviens bien, avec l'émulateur, lui, purement logiciel, qui s'appelle Musashi.
Oui, c'est ça.
Et c'était la première reproduction sur FPGA de la Jaguar.
Ouais.
Et est-ce que c'est la seule aujourd'hui encore? Est-ce que tu connais l'actualité de...
Non, mais je pense que le code sur le mystère, il est issu de ça. Il a été amélioré, parce que comme toujours, ça marche, mais il reste quelques bugs, et puis comme on est un peu feignant, on dit « Ouais, c'est pas mal, et puis on va s'arrêter là. »
Donc d'autres ont repris le code et l'ont fait vivre.
Exactement. Il me semble que la partie audio était pas fonctionnelle à l'époque.
Et vous avez collaboré sur d'autres projets? Je sais que Greg avait fait aussi la console NEC TurboGrafx. Il a fait ça tout seul ou...
Il a fait ça tout seul, ouais. Il a fait ça tout seul, et c'était avant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que c'était en VHDL et pas en Verilog.
D'accord.
Et pareil pour la Mega Drive.
Il a aussi fait la Mega Drive.
Ouais.
Et toi, après ton expérience de start-up, tu as continué dans le rétro-computing émulé sur FPGA?
Un petit peu comme ça, pour m'amuser, mais comme j'avais pas de corps rigolo, à part la Jaguar, là, avec Greg, à faire, j'ai un peu regardé ce que faisaient les autres, et puis à cette époque-là, je faisais du FPGA dans le milieu professionnel. Donc dans le médical, traitement vidéo, codec H.264, tout ça, donc des trucs bien sympas. Donc j'avais pas besoin de faire des trucs à côté, quoi.
De te changer les idées.
Voilà, exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Fred Requin.
De rien.
Ceci conclut notre émission.
C'était une chouette plongée justement dans tout cet univers et ce que cela peut amener. Mille merci à toi. On rappelle qu'on va mettre le plus possible de documentation sur la page web de l'émission qui est liée à cette interview justement pour toutes les conférences, les papiers techniques, les logiciels. Merci à toi. World, Hazy Crazy, extrait de l'album Level Up. Et la Pola en question, c'est la puce son de l'Amiga. Oh.
Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Fred Requin pour parler de rétro gaming exact au cycle près. Merci les FPGA.
De rien.
Puisque dans cette émission, nous nous sommes concentrés sur l'usage en rétrocomputing de FPGA pour émuler des processeurs et composants archi spécifiques, une question nous titille. Est-ce légal et si oui, jusqu'où? Parce que oui, copier le fonctionnement d'un processeur genre CPU ou une puce de gestion clavier et joystick peut exposer à des risques juridiques. Et le droit, c'est comme le code informatique. Il ne supporte pas les approximations. Pour commencer, quelle est la durée légale de protection d'une propriété intellectuelle? Dans un brevet industriel, la durée d'application après son dépôt est de 20 ans. Il peut être étendu de 5, 7, voire de 10 ans selon les juridictions, mais pas plus. À expiration du délai de protection, un brevet passe dans le domaine public, clairement accessible et réimplémentable par n'importe qui. On va voir que cette durée de protection a son importance. Et ne confondez pas un brevet avec un logiciel où la protection dure plus de 70 ans. Ça, j'en parle plus tard. Ensuite, même quand une entreprise disparaît, son portefeuille de brevets est probablement repris. Ne serait-ce que par des créanciers, des banques, des fournisseurs qui avaient des impayés. Ce n'est pas parce que Commodore a disparu que l'Amiga est devenu libre de droit. Au contraire, rien que pour les marques Commodore et Amiga, c'est un bordel sans nom. Aussi feuilletonesque que la poursuite du record Guinness Book sur Donkey Kong. Parce que, oui, lors de la transmission de cette propriété intellectuelle durant un rachat mouvementé ou une liquidation, on peut se retrouver avec plusieurs personnes qui en revendiquent la propriété et qui attaquent des entreprises qui avaient un contrat en toute bonne foi. Il y a aussi le cas des individus très louches qui profitent du chaos ambiant pour revendiquer abusivement ce qu'ils n'ont pas en passant des courriers juridiques assez véhéments. Et enfin, ça s'est vu aussi, des entreprises qui avaient un contrat de relicence limité à un pays et ou une période qui refourgue, donc des licences sans plus avoir de droits. Pour être honnête, ce genre de situation ubuesque arrive même dans un cadre normal d'une entreprise. Ça fait toujours très étrange de découvrir qu'un contrat signé n'a en fait pas la valeur estimée parce qu'un juriste a manqué une ligne dans un autre contrat et que donc les droits intellectuels peuvent bloquer des références stars actuellement commercialisées. À côté, les sitcoms brésiliens à rallonge manquent d'imagination. Alors, en termes de propriété intellectuelle, de quel domaine de protection parle-t-on? Du jeu d'instruction, d'un processeur, un ISA et de son comportement? Ce qui définit une ISA, c'est que, par exemple, si on entre successivement les valeurs 40 000, 14 et 18 à exécuter, un processeur va stocker en registre V1 la somme de 14 et 18. Faire correspondre à une valeur numérique une opération mathématique, c'est une bête correspondance, genre alphabet vers code numérique, impossible à breveter, sauf que... Si on parle de formules mathématiques, par exemple l'implémentation d'une fonction trigonométrique, elles sont théoriquement non brevetables en France. Article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle. Je dis théoriquement, car il se trouve que certains enregistrements faits par l'Office européen des brevets est contesté, notamment tout ce qui concerne la compression photo, audio et vidéo. Pensez au format MPEG, on en a déjà parlé dans notre émission CPU. Aux États-Unis, une formule mathématique est parfaitement brevetable et d'ailleurs de tels brevets reconnus par leurs tribunaux. Tribunaux qui ne sont pas particulièrement tendres dès qu'on bafoue la propriété intellectuelle. L'OMPI veille au grain, dès qu'il y a du blé en jeu. Mais il y a des limites. Sony a tenté de protéger juridiquement la clé secrète des DRM de la PlayStation 3, en plus du procédé, donc un bête nombre premier en constante, gravé dans un processeur. Ça leur a pas vraiment réussi. Une fois découvert, ce nombre s'est disséminé hors de la PS3, et la même équipe de hackers qui a compris l'usage de ce nombre premier a remis ça sur la PlayStation 5, sur exactement la même fonction, impossible à patcher. Je reparlerai plus tard des DRM. Revenons sur la protection juridique des jeux d'instruction, car c'est là que la durée de protection d'un brevet matériel joue. Si en 2026 on regarde tout ce qui a été déposé avant 2006, donc sorti commercialement avant 2008, vous avez tous les ordinateurs et consoles du précédent millénaire, toutes les stations type Unix avant 2006, tous les smartphones avant l'iPhone baseband compris, ça en fait du monde. Si par sécurité vous jouez sur 30 ans, cela fait toutes les machines 8 bits, les PC sortis avant Windows 95 et pour les Mac, ceux sortis avant l'OS Mac classique 7.6. Prenons l'architecture x86 d'Intel. Le jeu d'instructions SSE 3 est introduit chez Intel sur Pentium 4 en 2004 et chez AMD sur Athlon 64. Sachant qu'un Pentium 4 embarqué entre 42 et 188 millions de transistors, je vous laisse calculer combien de LUT ça prend et donc du coût du FPGA pour l'émuler. Ouais, à mon avis, c'est plus rentable de se rendre chez un antiquaire et de récupérer le processeur original. À noter qu'il y a toujours des brevets sur les processeurs quand leur durée d'exploitation s'allonge. C'est comme pour les médicaments qui semblent ne jamais passer dans le domaine public et donc jamais vendus en médicaments génériques. On ajoute un adjuvant dans la formule et hop, l'exclusivité est étendue. C'est une astuce appelée evergreening, éternellement frais. Au fur et à mesure, l'entreprise qui produit le composant électronique refactorise quelques éléments, quitte à inclure des idées abscondes qui semblent contre-productives, mais qui satisferont pleinement l'équipe juridique. Laquelle équipe dépose illico un nouveau brevet couvrant les nouvelles itérations du hardware. Les processeurs ARM, par exemple, peuvent parfaitement être émulés légalement, du moins pour les versions sorties avant 2006. Si vous voulez en faire un plus récent, gaffe aux avocats à l'affût. Et là aussi, émuler peut être trop coûteux. Il n'est pas trop tard pour chercher dans une casse ou dans une vente de déstockage le processeur original. Est-ce qu'on parle de la propriété intellectuelle sur la manière d'implémenter un processeur? Si on parle du design des puces à graver, là, il y a des protections supplémentaires qui jouent. Ben oui, faut du talent d'artiste pour tirer les petits fils entre les composants. Blague à part, là aussi, il s'agit de design industriel que d'hardis juristes feront passer comme modèle déposé et la protection est équivalente à un brevet. Comme un FPGA ne reprend pas du tout le design interne mais simule le comportement externe d'un processeur et que le comportement a été cerné par rétro-engineering d'une puce originale ou par la lecture d'un brevet passé en domaine public, vous êtes alors inattaquable. Hop, chat perché. Mais attention au design des périphériques. Si pour adapter le FPGA, vous reprenez des éléments aperçus dans la puce ou autour, l'exception de rétro-engineering pourrait ne pas sauver vos fesses du banc des accusés. Est-ce qu'on parle de la propriété intellectuelle sur une mention indiquant un copyright? Si on parle en guise de protection d'une mention genre copyright megacorp ou d'un dessin bitmap en vecteur ou en 3D qui apparaît suite à une obscure instruction, là, c'est autre chose. C'est une contrefaçon de marque, soit dans le nom, soit dans le dessin. Je ne l'ai que très rarement vu, sinon dans des ROM contenant le firmware, le logiciel d'exploitation ou la preuve DRM d'authenticité. Je pense aux premiers Mac et aux consoles de jeux depuis la NES. Une ROM, c'est un logiciel, et la protection juridique d'un logiciel est équivalente à celle d'un livre, d'un disque ou d'un film. En France, 70 ans après le décès de l'auteur. Vu qu'un FPGA n'est pas destiné à jouer le rôle d'une ROM, on ne va pas trop insister. Nous avons vu plus tôt qu'un nombre premier ne peut être illégal en soi. Par contre, les DRM, les systèmes de protection de droit de fonctionnement, eux, sont protégés par la loi dans le cadre de la protection du droit d'auteur. Faire sauter un DRM pour exécuter un jeu homebrew sur une console de jeu n'est pas interdit, tant que le dit jeu n'est pas commercialisé. Détourner ou esquiver un DRM pour faire fonctionner une copie d'un logiciel protégé, là, c'est strictement illégal. Et on entre dans une zone grise. Combien de temps est protégé juridiquement un système DRM avant qu'il soit toléré de le détourner? Selon la loi française, tant qu'un système de DRM n'est pas obsolète. En gros, le législateur laisse faire la jurisprudence, et c'est pour ça que je parle d'une zone grise et qu'il n'y a pas de règle exacte. Mais en gros, si on considère que le vieux système de region lock des DVD est obsolète, mais pas celui des Blu-ray, on peut estimer que la durée de protection juridique est à peu près équivalente à celle des brevets entre 20 et 30 ans. Ces questions du domaine légal ne sont pas triviales. Se les poser n'est pas un symptôme de stress parasécuritaire idiopathique. Depuis 10 ans, les constructeurs reviennent sur leurs modèles qui ont un certain âge avec les mini-consoles et mini-ordi. Et dès qu'il y a un chiffre d'affaires potentiel, même minime, les ayants droit pourraient s'agacer et attaquer la moindre page web, le moindre repo GitHub ou GitLab. Alors imaginez la petite usinette qui ose se lancer dans la production d'un appareil et la vendre à la kermesse de l'école communale. D'où l'astuce des machines Myst et Mister. Ce sont certes des matériels complets qui peuvent émuler des machines qui ont été vendues jusqu'à la fin des années 90, mais ils ne fournissent pas les jeux ni les OS. Vous aurez les programmes FPGA et le manuel pour y installer OS et logiciels que vous aurez acquis légalement de votre côté. En clair, si vous voulez vraiment flirter avec la loi, c'est votre affaire. Et c'est vous qui risquez soit la coupure internet pour piratage, soit les tribunaux pour l'avoir lourdement pratiqué. Alors comment qu'ils font dans le milieu du rétrocomputing ? Eh ben en gros, ils utilisent une exception à la protection intellectuelle, c'est-à-dire une tolérance sur laquelle les ayants droit ne peuvent rien dire. L'usage strictement personnel, voire le cercle familial immédiat, où la copie est tolérée, mais le détournement d'un système anticopie uniquement s'il peut être considéré comme obsolète. Ça va le mal de crâne ? Attention, hein, l'ibuprofène, c'est pas plus de 1 caché toutes les 6 heures. Bon. Disons qu'un jour, je me décide à monter une machine FPGA pour émuler un Amiga, machine qui m'est très chère à mon petit cœur de hacker. Il se trouve que j'ai un prétexte en or. J'ai un Amiga qui dort dans un coin et quelques disquettes originales. Dupliquer sa ROM et les disquettes, c'est un peu comme si je ripais mes CD pour en faire des MP3. C'est tout à fait légal. Et c'est couvert par le droit d'auteur comme exception du cercle familial. Je pourrais même greffer les puces ROM dans ma machine d'émulation. Et là, c'est même pas une copie. C'est le logiciel original dont j'ai acquis la licence avec ma machine. Et hop, c'est légal. Chat perché, j'ai gagné la partie.
C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Dans la série composants, release EX234 FPGA 3ème partie. Release, l'équipe était composée de Daskrit, Chief Pin Officer, Benoît, Chief Microcode Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. Nous remercions le Fab Lab Artilec pour nous avoir accueillis et Silicium pour leur soutien logistique. L'intégralité du programme, les extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pn/234. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Bonjour Monique, alors tu kiffes l'émulation sur hardware reprogrammable ? FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.